Décryptualité, semaine 5, année 2022. Salut Manu.
Salut Luc.
Eh bien, au sommaire, tu nous as trouvé quelques articles, hein, ça repart un petit peu. Le monde informatique, Alpha Omega, un énième projet pour sécuriser l'open source, un article de Cynthia Brumfield.
Alors, c'est dans la continuité des problèmes de financement qui ont été soulevés ces derniers mois. Là, bah, c'est pas l'Union européenne, comme il y a peu, qui se lance pour financer des projets, mais c'est des branches de la Fondation Linux, et pas que, l'OpenSSF. Il y a des millions qui sont en train de tomber pour essayer de financer tout ça. Derrière, c'est notamment soutenu par Microsoft et Google. Bah oui, hein, les millions, ils viennent de quelque part. Ça n'empêche, ça reste intéressant parce que ce sera plus que les 200 000 euros de la Commission européenne, enfin de l'Europe. Et ça toucherait 10 000 programmes open source. Donc, il serait question d'essayer de les améliorer, c'est-à-dire sous la forme notamment, de ce que je comprends en tout cas, de bounty, c'est-à-dire de prime, pour que quand on trouve une faille, on la révèle aux fabricants ou à cette association et qu'on soit rémunéré en conséquence. C'est un mécanisme qui est intéressant, même si... Mais on en parlera un petit peu plus tard, il y a un autre article qui aborde le sujet.
Eh ben on va l'aborder tout de suite. 01net, hacking, comment l'esprit des origines a été perverti et ubérisé par les géants de la tech. Un article de Gilbert Kallenborn.
Alors l'article est plutôt sympa, en plus il met en avant les hackers. Moi je me sens très hacker dans l'article, vraiment je suis un rebelle, mais je suis là pour sauver le monde, donc je me sens très hacker. Et effectivement, d'un autre côté, ça met en avant ce côté ubérisé, où les développeurs, les informaticiens, c'est pas l'esprit de travailler, par exemple, à la prime. Non, ça, c'est pas le mieux. Et en fait, d'avoir des projets informatiques qui seraient des projets un petit peu fragiles, ben, c'est déjà compliqué. Mais en plus, mettre les développeurs, les hackers, dans des situations eux-mêmes fragiles, c'est pas non plus une bonne idée. Donc, on peut pas corriger la vulnérabilité des uns avec un système vulnérable des autres, c'est pas compatible.
Oui, puis il s'agit bien de payer des gens à la tâche pour boucher des trous et pas financer des beaux projets. C'est des choses qu'on évoquait la semaine dernière. 20 minutes, de Covid Tracker à Elise, à quoi sert la publication d'un code informatique en open source ? Un article de Laure Gamori.
Donc c'est de la sensibilisation, c'est pas mal, parce qu'on voit un petit peu, bah oui, il y a des intérêts à publier son code source. Et puis en plus, ça met en avant Covid Tracker, effectivement, mais surtout Elise, qui est dans les sujets d'actualité, qui est plutôt sympa, je l'ai installé sur mon téléphone, c'est rigolo, voilà, vous pouvez...
Ça sert à quoi ?
Bah tu swipes, c'est un peu comme quand tu dragues sur les outils de drague sur téléphone portable, mais là c'est plutôt avec les programmes politiques.
ZDNet France, non, Linus Torvalds n'est pas Satoshi Nakamoto, un article de Steven Vaughn Nichols.
Alors, c'est un sujet qui est vraiment très rigolo. Satoshi Nakamoto, c'est le créateur mythique du Bitcoin.
Sauf que personne ne sait qui c'est. Ouais.
Exactement, c'est très mystérieux. Alors s'il y en a qui ont dit qu'ils savaient, c'est la NSA. Eux, ils ont dit qu'ils ont réussi à remonter à qui il est grâce à sa façon d'écrire du texte. Donc c'est eux qui l'ont dit, mais ils ne l'ont pas révélé. Et ça n'empêche, bah, pour l'instant, plein de gens cherchent qui c'est. Plein de gens aussi ont dit qu'ils étaient Satoshi Nakamoto. Bah, parmi les intérêts, c'est qu'il a gardé les premiers bitcoins qui ont été créés pour faire de la monnaie, pour faire le test du système monétaire. Et en fait, il y a des, je crois que c'est des milliers de bitcoins qui sont vraisemblablement quelque part, ou peut-être qui ont été effacés, mais en tout cas, qui ont été créés par Satoshi au tout départ de la blockchain. Et ces milliers de bitcoins en feraient quelqu'un de très riche aujourd'hui s'il voulait, s'il les avait encore, ce qui n'est pas sûr. Et il y a une petite théorie qui a été lancée à cause d'un commentaire caché dans le code source du noyau Linux. La petite théorie, c'était que c'était Linus Torvalds qui était le créateur du Bitcoin. Et donc, Linus Torvalds, c'est un uber hacker, hein, un grand homme du code, mais quand même, faire aussi une monnaie chiffrée comme le Bitcoin, c'est quand même beaucoup lui demander. Et en tout cas, il a annoncé que non, il n'était pas Satoshi, c'était pas vers lui qu'il fallait se tourner pour trouver la légende.
Exactement ce que dirait Satoshi Nakamoto.
N'est-ce pas ? T'as raison.
ZDNet France, brevet logiciel, comment Michel Rocard découvrit le logiciel libre ? Un article de Thierry Noisette.
C'est plutôt pas mal, intéressant. Bah, Michel Rocard, grand homme politique français, qui a fait pas mal de choses, même au niveau européen, et qui a fait pas mal de choses pour le logiciel libre. Alors que pourtant, clairement, il ne connaissait pas grand-chose à l'informatique. En tout cas, il l'utilisait pas beaucoup. Et il semblerait qu'il s'est battu pour les préceptes du logiciel libre, et pour vraiment mettre en avant que la connaissance, les inventions, les découvertes devaient être partagées. Et il a compris que les brevets logiciels étaient un gros problème et une grosse entrave à l'inventivité humaine. Donc c'était un grand homme qui a su défendre un grand projet. Donc vraiment c'est pas mal, allez jeter un œil à l'article, hein, parce que ça remet un petit peu tout ça au goût du jour. C'est pas mal de se rappeler qu'il y a des hommes politiques qui peuvent comprendre les enjeux de l'époque. On aimerait qu'il y en ait d'autres en ce moment.
Clubic, RGPD interop saisit la CNIL pour que les acteurs e-santé, Alan Kedok Maya, arrêtent d'utiliser Google Analytics. Un article de Alexandre Boero.
Alors, je propose qu'on en fasse le sujet de la semaine. Allez, Luc, qu'est-ce
c'est
que t'en
dis ? Et qu'on élargisse un petit peu. Parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent autour de la surveillance, du RGPD et de Google Analytics notamment. Cette mise en cause en France, elle a eu des répliques ailleurs, notamment en Autriche, où il y a un jugement qui est tombé il y a peu, donc à l'initiative d'une association qui s'appelle My Privacy is None of Your Business, donc ma vie privée ne vous concerne pas, c'est pas vos oignons, et qui a considéré que Google Analytics ne respectait pas le RGPD. Et aujourd'hui, sur cet article, hein, c'est le même genre de mise en cause sur les données de santé, en demandant de ne pas utiliser Google Analytics. Donc, ce produit, c'est quoi, Manu ?
Alors, bah, c'est quelque chose qui est pas mal, honnêtement. Je l'ai utilisé dans le passé. C'est un outil qui permet d'analyser le trafic d'un site web. Ce site web, on veut peut-être savoir s'il est beaucoup vu, et on veut peut-être savoir d'où viennent les gens qui le visitent, par quelle page ils passent, combien de temps ils restent dessus, et autres usages. Est-ce qu'ils y ont accédé depuis un ordinateur, depuis un téléphone portable, depuis quel pays ils ont accédé ? Il y a vraiment plein de métriques qui peuvent être pertinentes pour analyser l'usage d'un site web. Et bah, Google Analytics, c'est un tout en un. Donc c'est extrêmement puissant.
Donc c'est un outil de suivi tout intégré, comme Google sait le faire. Et évidemment, ça leur donne un avantage énorme parce que ça leur permet de récupérer eux-mêmes les données. Et plus des gens utilisent ces services-là, plus ils ont un nombre de points de mesure qui est important.
Alors, c'est un outil qui est extrêmement utile, hein, parce que mesurer son site web, bah oui, on en a besoin d'une manière ou d'une autre. Il y a plein d'autres manières de le faire, hein, donc ils ne sont pas nécessaires à le faire, mais ça n'empêche qu'ils sont utiles. Et le gros problème qui là a été remonté, c'est pas juste qu'ils analysent et ils tracent les utilisateurs, c'est qu'à l'origine, ils utilisent le Privacy Shield, le bouclier de la vie privée, qui permettait aux entreprises américaines de stocker des informations qui venaient d'utilisateurs européens. Mais ce Privacy Shield, bah, il est tombé il n'y a pas très longtemps.
Oui, on a considéré que les États-Unis n'étaient pas assez sérieux et qu'on ne pouvait pas leur faire confiance dans la protection des données. Dans le même registre, alors c'est anecdotique mais rigolo, il y a un autre service qui s'appelle Google Fonts, qui consiste à automatiser en quelque sorte et centraliser le téléchargement des polices de caractères pour un site internet. C'est-à-dire que quand ça va s'afficher dans le navigateur de l'utilisateur, il faut qu'il ait la bonne police installée sur sa machine, que ce soit son ordinateur ou son téléphone. Et Google Fonts se charge de lui envoyer la bonne police de caractère.
Alors, ils font pas grand-chose, hein. Ils les hébergent, donc c'est franchement pas un service incroyable. Et si on les avait déjà téléchargés auparavant, normalement, notre navigateur ne va pas les retélécharger à nouveau. Donc, c'est pas quelque chose d'incroyable du point de vue de la vie privée, comme Google Analytics. Mais ça n'empêche, en Allemagne, un site médical, ils utilisaient les Google Fonts et au tribunal, ils se sont fait taper sur les doigts. Ils ont dû payer une amende de 100 euros. Parce que les utilisateurs du site web, les visiteurs du site web, se retrouvaient à télécharger, sans le savoir, cette fonte depuis Google Fonts. Et ils n'étaient pas au courant. Et au nom des infractions de Google et du pouvoir qu'ils ont, il a fallu payer une petite amende.
Et c'est surtout que leur adresse IP était remontée à Google Fonts.
Ah bah nécessairement.
Donc, Google récupérait à nouveau une information privée. Parce que l'adresse IP fait partie des données privées. Et récupérer ces informations-là.
Moi, ça m'embête, hein, parce qu'effectivement, Internet, on utilise des ressources qui sont hébergées un peu partout sur d'autres sites web. C'est assez normal comme fonctionnement. Mais effectivement, ça pose ce problème. Le navigateur de nos visiteurs, de nos utilisateurs, et il va se connecter à d'autres sites. Et en soi, ils s'y attendent pas forcément. Donc, ça peut poser des problèmes de vie privée. Bon, c'est pas quelque chose d'énorme comme Google Analytics, mais ça n'empêche, ça montre qu'il y a une direction dans laquelle on va. Et on va essayer de bloquer un peu Google, notamment.
Et donc, ça nous montre aussi à quoi sert le RGPD et que cette question de la surveillance sur Internet, elle a été prise à bras-le-corps par le RGPD, notamment sur la question des cookies. Tout le monde connaît ces fenêtres de validation ou de refus des cookies qui sont effectivement très pénibles. Alors moi, je prends le temps de refuser à chaque fois. Et il y a un article de la CNIL qui s'appelle « Nouvelle méthode de traçage en ligne, quelle solution pour se protéger ?» et qui rappelle que les cookies, aujourd'hui, ne sont plus les seuls moyens, et surtout que on peut commencer à les refuser maintenant. Il peut y avoir des petits plugins pour refuser automatiquement les cookies, il faut chercher ça. Et donc, la CNIL rappelle qu'il y a des traçages par empreinte numérique unique, donc qui permet d'identifier les gens, parce que si on prend en compte le matériel physique, avec les informations qui remontent, plus le navigateur, plus la définition, plus l'adresse IP, bien sûr, la taille de l'écran, enfin, il y a toute une série d'éléments, on va avoir une signature des empreintes digitales, en quelque sorte, des empreintes numériques, qui feront qu'en fait, on est unique à avoir cette empreinte-là, même si on pense qu'on a le même téléphone que tout le monde. Il y a un site qui s'appelle Am I Unique, qui est maintenu par l'INRIA, qui permet de tester. On peut aller sur ce site-là et le site nous dit si il y a d'autres personnes qui sont venues et qui avaient exactement la même configuration. Et en général, on s'aperçoit qu'on est tout seul.
Donc, c'est pas la seule manière qu'il y a d'être tracé. On peut aussi être tracé avec des identifiants, comme les cookies, mais qui peuvent être installés autrement sur nos postes. Donc, il y a pas mal de manières de nous suivre grâce à ça. Et puis, bah oui, effectivement, l'adresse IP en soi, c'est un moyen de traçage assez puissant, même si, par exemple, quand on est une famille, on utilise une seule adresse IP pour toute la famille.
Il y a le pixel espion aussi comme méthode de traçage que je trouve assez fabuleuse. Donc ça, c'est quand on envoie notamment des mails, mais également ça marche sur les pages web. À chaque affichage ou à chaque envoi de mail, on envoie une petite image qui fait un seul pixel et qui est unique, c'est-à-dire qu'elle est générée pour chaque envoi. Du coup, quand elle est chargée, on sait qui l'a appelé. Donc ce qui fait quand on ouvre un mail ou quand on ouvre une page web, il y a ce petit pixel, cette petite image d'un pixel de côté qui est appelée. Et du coup, on dit, ah bah tiens, tel pixel, telle image unique qu'on a rajoutée dans la page à la volée ou dans le mail, elle a été ouverte par telle adresse IP, donc on peut comme ça aller tracer les gens par ce biais-là. Donc tous ces moyens-là, il y a des moyens plus ou moins techniques, plus ou moins complexes pour se protéger.
Et bah malheureusement, oui, plus ou moins techniques, plus ou moins complexes, mais malheureusement des choses qui sont pas forcément à la mesure de tout le monde. Le plus simple, c'est généralement d'utiliser un VPN. C'est ce que vous recommanderont plein de YouTubeurs qui sont payés par des entreprises de VPN. Alors toi et moi, on n'en utilise pas. Bizarrement.
Non, effectivement, parce que c'est des sous en plus. Hein, en général, c'est payant. C'est pas simple. Il y a des trucs comme Tor, mais qui ralentissent beaucoup Internet et permettent pas d'accéder à tous les sites.
C'est l'équivalent d'un gros VPN. Hein. Tor, au final, techniquement, c'est encore mieux, bien sûr. Et puis, c'est souvent communautaire, mais c'est un peu l'équivalent.
Ça rend l'Internet vraiment extrêmement peu pratique. Donc, si on l'utilise, c'est vraiment qu'on veut pas se faire tracer et qu'on a de bonnes raisons pour ça, parce que c'est quand même très pénalisant. Voilà, mais en tout cas, l'article est vachement intéressant là-dessus. Ça permet de rappeler que ça bouge beaucoup, hein, et il y a des boîtes dont c'est le métier, d'essayer de trouver de nouvelles façons de tracer les gens. En tout cas, ce que je note, c'est que la question de données privées, de la vie privée, prend un peu d'ampleur. On avait parlé il y a quelques temps de la prétention d'Apple de se poser en défenseur de la vie privée de ses clients. On avait démontré que sur plein d'aspects, c'était complètement faux, qu'évidemment, ça restait un GAFAM, et que même si la surveillance à tout craint, c'est pas leur business model, ils surveillent quand même énormément, ils récoltent beaucoup de données. Qualitativement, ils en récoltent un panel plus large que d'autres acteurs comme Google. Et il y a une nouvelle aussi assez intéressante où Facebook s'est plaint parce qu'ils ont eu un très mauvais trimestre en termes de revenus financiers. Et en disant que les mesures que Apple avait prises à leur encontre, en tout cas à l'encontre des acteurs, en bloquant la possibilité sur les systèmes Apple de pouvoir choper des infos privées, leur avait coûté 10 milliards de revenus sur le trimestre. Alors on ne sait pas si c'est vraiment Apple qui leur a généré ce trou.
Effectivement, Apple, défenseur des libertés, c'est amusant. On a l'impression d'un retour à 1984, la publicité d'Apple, mais on y croit peu, hein, effectivement.
Ça peut être aussi un enjeu de savoir qui la contrôle, et puis qu'à un moment, ils se disent que Facebook est un concurrent, ou que quiconque est un concurrent, et qu'ils préfèrent se garder ses infos pour eux, et puis essayer de casser les pattes de la concurrence. En tout cas, ça montre que ça reste le nerf de la guerre et qu'on a bien raison de se battre là-dessus.
Oui, rappelons, c'est toi qui m'en parlais, il y a des sites web où on peut refuser les cookies, mais maintenant, de plus en plus, quand on refuse les cookies, on nous demande de payer pour accéder au site web, donc certains médias, certains journaux. Ça montre un petit peu d'où vient l'argent et comment il y a des financements qui se font derrière.
En tout cas, ça a une vertu, c'est qu'on s'est beaucoup battu dans le monde libriste et des défenseurs des libertés informatiques pour dire que ça n'était pas gratuit. Et là, on commence à voir qu'effectivement, ça n'est pas gratuit du tout. Que Facebook fait moins de bénéfices, que les sites à qui on refuse les cookies nous demandent de l'argent. Donc non, ça n'était pas gratuit, on en a la bonne démonstration.
Notons, le RGPD commence à avoir des dents, c'est pas inintéressant, on n'était pas sûr que ça allait être utile, mais pour l'instant, le RGPD, c'est peut-être pas mal.
Très bien, on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Luc. Salut.
Salut.